Aujourd'hui, une grosse problématique, c'est de prouver la valeur de la recherche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va y avoir des équipes qui peuvent pas en faire et il va y avoir des équipes qui en font, mais qui derrière, le résultat ne va rien donner parce que en fait, il sera écrasé par l'avis d'un manager ou d'un supérieur qui dira oui, peut-être que c'est ça les résultats que vous avez eus, mais moi, je suis convaincue de ça, donc on va quand même faire ce que j'ai envie de faire.
Il y a 3 ans, fin 2018, nous avons lancé le podcast Design Masterclass. Le sujet du premier épisode, la recherche utilisateur. Durant ces 3 années, le métier a beaucoup évolué. Nous voulons faire le point sur ce métier en constante évolution, en comprendre les pratiques, mais également tirer des perspectives en regardant vers le futur. Dans cet épisode, nous parlons des outils existants pour faire de la recherche en expérience utilisateur, ainsi que de l'apparition de formations dédiées. Ces 2 sujets sont des indicateurs de l'évolution vers la maturité. France Wang est cofondatrice de Tandems. Grégoire Devoucou est fondateur de la formation Cousteau. Dans cet épisode, les témoignages de nos invités couvrent 4 thématiques. Dans le chapitre 1, nous parlons des évolutions du métier. Le chapitre 2 se concentre sur l'émergence et l'usage des nouveaux outils et logiciels. Sont-ils une aide ou vont-ils remplacer ceux et celles qui mènent les recherches? Le chapitre 3 aborde la question de la formation. Comment se former pour devenir UX Researcher? Nous concluons cet épisode en dessinant de futures perspectives. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet. Chapitre 1. Les évolutions du métier.
Alors là, c'est vraiment mon avis personnel, mais je pense que c'est une part de... c'est la mode. C'est cette méthode qui vient des États-Unis. Ça devrait être, si on fait du design thinking bien, on doit le faire. Et donc, du coup, on se dit, on va investir dedans, mais sans vraiment trop savoir pourquoi et sans trop savoir ce que ça apporte. En soi, ça reste une évolution dans le bon sens, parce que de faire rentrer des personnes dans des équipes pas mûres sur le sujet, bah, ça va diffuser la méthodologie et le mindset aussi qui vient avec, et donc ça va transformer les gens d'intérieur. On n'est pas encore à un niveau où les gens sont transformés. Il y a encore beaucoup de chemin à faire dans les mentalités des entreprises pour que ça fonctionne.
Dans ce premier chapitre, nos invités analysent les évolutions des dernières années. Pour France, le métier se développe en suivant la tendance américaine. Chez les géants de la tech, les produits évoluent en continu.
Moi, je m'appelle France, je suis CPO et cofondatrice de la startup Tandems, qui est une startup qui est dans l'espace de la recherche utilisateur et qui cherche à aider les entreprises à communiquer facilement avec des testeurs et des potentiels utilisateurs de leurs produits pour itérer en confiance sur leurs produits et leurs services. À l'origine, je suis issue d'une formation plutôt ingénieur, mais j'ai aussi en parallèle fait une école de design qui est l'ENSI Les Ateliers. Et j'ai fait mes armes surtout en UX design à l'origine dans une agence qui s'appelle BAM. Et c'est dans cette agence que j'ai découvert toutes les problématiques de la UX Research et c'est là que j'ai décidé qu'il y avait quelque chose à faire et que c'est pour ça que j'ai monté Tandems. Le métier de la UX Research, il s'est beaucoup développé en France dans les dernières années. Je pense qu'il suit une tendance américaine qui est qu'aux États-Unis, très rapidement, en tout cas beaucoup plus qu'en France, tous les produits, ils vont faire de la user research avant de prendre des décisions et pour pouvoir itérer. Et ça se voit à plein de choses, ça se voit au fait que déjà toutes les interfaces qu'on connaît, que ce soit Airbnb, Facebook, etc., tout le temps, l'interface, elle change. Et ça, c'est une preuve du fait qu'ils itèrent très rapidement sur la base de la user research parce que c'est soit une conséquence de ce qu'ils font en research quali, soit une conséquence de ce qu'ils font en A/B testing. Et ça, on le voit depuis très tôt. Donc, c'est une preuve que la user research aux États-Unis est beaucoup plus développée. L'autre preuve, c'est qu'aux États-Unis, la plupart des startups, la plupart des boîtes connues, elles ont un head of research quelque part. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment assez processé, on va dire. Il y a des vraies compétences qui sont internalisées et qui sont là juste pour servir la user research. Et en France, ce qu'on voit, c'est une évolution du métier de l'UX design qui au départ intégrait la research et qui aujourd'hui se sépare dans toutes ces différentes verticales, dont la UX research. Et pour moi, c'est une bonne chose parce qu'en fait, la UX research, c'est aussi au-delà du design, c'est aussi beaucoup d'analytics, c'est aussi beaucoup de, ça recoupe des éléments académiques de la research, de la recherche, on va dire, scientifique. Et donc, du coup, d'avoir des gens plus spécialisés, ça permet aussi d'obtenir de meilleurs résultats, de suivre les méthodes de manière plus, plus fiable. Et moi, je dis qu'on suit la tendance américaine parce qu'en fait, si tu regardes, il y a encore 3-4 ans, quand j'ai commencé chez BAM, il n'y avait pas un seul UX researcher sur le marché du travail. Et aujourd'hui, on voit des boîtes qui non seulement ont des pôles de UX research, mais on voit de plus en plus de freelance en UX research, on voit de plus en plus de job offers, d'offres d'emploi en UX research. Pour moi, c'est une preuve que le métier est en train de se démocratiser, en tout cas sur dans la tech en France.
Avec Grégoire, nous revenons sur les évolutions du marché. Comme la technologie devient de plus en plus facile à produire, le facteur différenciant est la capacité des entreprises à mieux comprendre les utilisateurs et utilisatrices.
Je m'appelle Grégoire, je suis UX researcher à la fois en freelance dans un collectif qui s'appelle Moza, qui est spécialisé en product design pour des startups et des scale-up dans le monde de la tech, et créateur d'une formation qui s'appelle Cousteau, qui a pour vocation à former des product managers, des jeunes researchers, des designers au métier de l'UX research. Et avant ça, j'ai co-créé une entreprise qui s'appelle Fairpection, qui est aussi une entreprise qui fait de l'UX research, plutôt à destination de grosses PME ou de grands groupes, donc notamment avec beaucoup de recherches à l'international, en Asie, aux États-Unis, etc. J'ai travaillé avec beaucoup de marques de luxe, par exemple françaises, qui se développent dans ces pays-là. Pour bien comprendre où se situe ce métier-là ces dernières années, il faut prendre un petit pas en arrière, en tout cas un peu de hauteur, par rapport en fait à l'évolution des expériences technologiques, tout simplement. En fait, si on prend la genèse du métier qu'est de créer des expériences utilisateurs technologiques qui sont les plus simples et les plus intuitives possibles, ça, c'est quelque chose qui existe en gros depuis les années 90, notamment avec Don Norman chez Apple. Mais en fait, au moment où ça a commencé à exister, ce qui faisait la différence sur le marché de la technologie, c'était quand même principalement la technologie. C'est-à-dire qu'on faisait une différence en tant qu'entreprise. Apple, Microsoft, etc. se sont principalement créés sur le fait qu'elles avaient une technologie différenciante qui permettait de conquérir un marché. En fait, ces dernières années, depuis le milieu des années 2000, après, entre 2000 et 2010, on se rend compte que c'est de plus en plus facile d'écrire du code, c'est de plus en plus facile de produire du design, et finalement, la qualité, on va dire, de la tech est de plus en plus neutre, on va dire, d'une expérience à l'autre. Par contre, ce qui va faire de plus en plus la différence, c'est du coup la qualité de l'expérience, la qualité, la capacité à bien comprendre un marché, une niche d'utilisateurs et être capable de répondre à ses besoins. Donc en fait, c'est aussi pour ça, je pense, que globalement, le marché est de plus en plus mature d'un point de vue design et que ce métier du UX research est de plus en plus important. C'est un métier qui consiste principalement à comprendre le contexte et les besoins, le comportement d'utilisateur qu'on aura prédéfini, qu'on aura choisi. Et du coup, en fait, bien comprendre ce contexte, à la fin, c'est ce qui va permettre d'avoir une expérience qui est la plus différenciante, la plus proche de ce marché qu'on a choisi. Et c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on fait la différence, beaucoup plus que par la qualité de son code, par exemple.
France et Grégoire font le même constat. Le marché manque encore de maturité. France nous explique que, dans notre pays, les entreprises ont encore une approche très top-down. Pour Grégoire, l'exemple d'Airbnb illustre comment une entreprise fondée sur une vision design forte est en avance sur celles qui comprennent moins bien ces métiers.
En fait, ce qui est assez clair, c'est qu'on est encore sur un marché où on aime bien être top-down, typiquement. Donc, on va avoir des responsables, des managers, des fondateurs qui ont une idée. Et par contre, ils ont compris qu'il fallait parler à l'utilisateur, récupérer de la donnée utilisateur, mais ils ne savent pas toujours comment et ils ne savent pas toujours pourquoi en faire. Du coup, le résultat, c'est que on se retrouve souvent, et quand j'en discute avec des designers, je sens, des researchers, je sens cette frustration, parce qu'on reste beaucoup sur de l'évaluatif, c'est-à-dire que on a le manager qui vient avec une idée et qui va dire est-ce que c'est la bonne idée, et derrière le rôle de la UX research va être de vérifier si c'est la bonne idée. Alors que, en fait, la valeur de la UX Research, elle est beaucoup plus large. Elle est dans la compréhension de l'utilisateur, elle est dans la compréhension de ses besoins, de ses problématiques, pour derrière toujours lui fournir de meilleurs produits et de meilleurs services, et régler un vrai problème. Et donc, l'utiliser uniquement à des fins évaluatives, c'est vraiment une preuve de... Parce que c'est vraiment qu'une partie de la recherche. Et ben, c'est la preuve qu'on est encore dans un état du marché où on n'est pas mûr et où on n'a pas encore compris toute la valeur que ça pouvait apporter.
C'est un métier qui est principalement arrivé par le design. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord eu uniquement des personnes qui écrivent du code et qui font un peu le design elles-mêmes. Quoi. C'était un peu les webmasters de l'époque. Ensuite, on a eu des designers qui, en général, ont... Pour certains, en tout cas, qui avaient, on va dire, ce grain-là, ont fait la partie recherche même. Et ensuite, on a ajouté un researcher en se disant, bah, en fait, c'est quand même un métier qui nécessite un certain nombre de capacités qui sont spécifiques. Donc, on a besoin d'avoir ce researcher. Donc, en fait, c'était un researcher plutôt au service du design. Donc, en fait, ça a été vu dans le prisme du design pour certaines entreprises. Donc, en fait, souvent, la manière dont c'est compris, c'est soit on a une entreprise qui a une vraie culture du design type Airbnb, par exemple, parce que c'est cofondé par un designer. Et du coup, tout de suite, en fait, la partie recherche a été très importante dans la manière dont les équipes se sont construites, parce que ils ont compris que faire du design, c'est d'abord comprendre des users et répondre à des problèmes. Soit on a une entreprise qui a plutôt été créée par des personnes qui ont un grain très tech ou très business, et pour qui le design, pour faire un peu à gros traits, c'est les couleurs et la forme des boutons. Dans ces entreprises-là, la recherche arrive assez tard et assez moins bien comprise, parce que c'est pas leur identité à la base. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on commence avoir des entreprises qui comprennent la recherche de manière beaucoup plus globale, qui en fait comprennent que c'est une sorte de fondation de comment une entreprise va se développer demain, qui est de se dire, en fait, si je suis capable de bien comprendre mon marché, mes utilisateurs sur mon marché, leurs évolutions, et ça de manière continue, et de me nourrir en fait de toutes les interactions que j'ai avec mes utilisateurs, je vais être capable demain de beaucoup mieux piloter mon entreprise de manière générale, c'est-à-dire pas uniquement le design, mais aussi les choix produits que je vais faire, les choix que je vais faire d'un point de vue business, etc., parce que en fait j'ai éclairci la carte sur laquelle j'évolue, et du coup je suis capable de prendre une direction qui est beaucoup plus claire, parce que elle est pas uniquement basée sur la vision de départ, des intuitions ou une réaction par rapport à mes concurrents, etc. On est rentré la recherche par une porte qui est le design, qui est finalement pas plus mauvaise qu'une autre, mais en fait je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que ça peut parler à beaucoup plus d'équipes à l'intérieur de l'entreprise, et surtout c'est pour moi une sorte de joint en fait entre toutes ces équipes, parce que finalement à la fin de la journée on fait tous on doit tous tirer dans le même sens, aller dans le même objectif, que ce soit l'équipe sales, l'équipe customer success, l'équipe produit, l'équipe design, etc. Et du coup, pour arriver à réconcilier tout ça, pour moi, il y a deux choses. Il y a un, la vision de la boîte, quoi, qui doit évidemment être claire et se fixer un cap, parce que c'est là qu'on veut aller. Et la compréhension des users. Et en fait, si tout le monde dans toutes les équipes a une vision claire là-dessus, je pense que 90% des problèmes dans la prise de décision, etc., sont résolus.
Enfin, France nous parle de l'évolution des méthodes. Une évolution qui est surtout une redécouverte de méthodes déjà existantes.
Je pense que les méthodes ont évolué, mais d'une part parce que, en fait, on redécouvre des méthodes qui existaient déjà, mais plutôt sur de la market research ou de la recherche académique, qu'on réintègre dans la boîte à outils du designer. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé, à peu près les seuls outils qu'un designer, quelqu'un qui faisait de la recherche utilisateur dans l'UX se permettait, c'était de faire des interviews des tests utilisateurs, et puis s'il fallait faire un peu de quanti, ils faisaient des questionnaires. Aujourd'hui, on se permet de retrouver des méthodes qui sont plutôt comme le shadowing, comme l'eye tracking, comme le diary study, le journal de bord, qui sont des méthodes qui existaient déjà et qu'on réintroduit dans la boîte à outils du UX researcher parce qu'en gros, ils se diversifient. Et ensuite, t'as des nouvelles méthodologies qui, elles, sont plus drivées par la tech et par les besoins, on va dire, en scaling et en rapidité des boîtes tech d'aujourd'hui, qui vont être tout ce qui est A/B testing, non modéré, tout ce qui est outils de collecte de données, de data analysis. Et ça, c'est des méthodes qui sont plus nouvelles et qui vont permettre notamment à un designer ou à un researcher de ne pas forcément être là et faire la recherche, mais laisser la recherche se tourner un peu à côté et venir récupérer les résultats.
Chapitre 2, des outils pour faire de la recherche. En 2019, le marché des outils et logiciels pour faire de la recherche en expérience utilisateur était estimé à 183,8 millions de dollars. En 2026, soit 7 ans plus tard, ce marché représentera 356 millions de dollars, une croissance annuelle de 12%. Cette croissance prouve qu'il existe une forte demande. Il est d'ailleurs légitime de se demander si ces outils vont venir aider les personnes faisant de la recherche ou, au contraire, se substituer à des postes en interne. Nous avons échangé avec France sur les outils disponibles pour mieux comprendre leur rôle.
Le point commun, on va dire, de tous les clients qui cherchent des produits en user research, elles cherchent à prendre des décisions sur leurs produits ou leurs services en toute confiance. Toi, en tant que manager, PM ou fondateur, t'as pas la science infuse, t'as pas toutes les réponses, t'es pas ton propre utilisateur, donc tu dois aller chercher ces informations-là ailleurs et pour prendre tes décisions. Et donc, du coup, c'est ça qu'elle cherche. Elle cherche de la légèreté d'esprit, on va dire, en se disant « j'ai pris la bonne décision parce que je l'ai prise sur la base de quelque chose de réel et pas que d'une idée, d'une vue de l'esprit ou une idée reçue que j'ai. »
Il existe plusieurs types d'outils pour aider à prendre des décisions. Analyse de données, base de connaissances, test de prototype.
Moi, je suis personnellement persuadée que la valeur de la recherche utilisateur, elle est dans la complémentarité des méthodes. Et donc, du coup, c'est un peu illusoire de se dire qu'il existe un outil qui va répondre à toutes les questions qu'on se pose sur les utilisateurs. Aujourd'hui, en fait, sur la recherche utilisateur, les outils qui vont se développer, en fait, il y en a plusieurs types. Tu vas avoir d'une part tous les outils data, c'est tous les outils qui vont permettre de faire de la data collection, récupérer des données, des insights, que ce soit existantes en ligne ou directement à partir de l'usage des utilisateurs. Ensuite, on va avoir pas mal d'outils de research repository, donc c'est des sortes de bibliothèques de connaissances ou de bases de données issues de la recherche. Donc c'est là qu'on va venir vouloir stocker tout ce qu'on a appris. Que ce soit du quali ou du quanti, et derrière pouvoir dire toute notre recherche elle est là, et si on a besoin un jour d'avoir de la connaissance utilisateur, et ben on peut retourner là pour savoir ce qui s'est déjà dit avant, et on va venir l'enrichir, et ça va venir aider l'ensemble de l'entreprise à développer cette empathie, cette connaissance utilisateur. Après, il y a tous les outils de testing qui sont beaucoup des outils de testing non modérés. Donc ça veut dire quoi? C'est des outils sur chaque outil va avoir sa méthodologie, ça ou ses méthodologies phares. Et l'idée c'est de dire on va streamliner le process de testing. On n'a pas forcément besoin, on va standardiser un peu ces process là et on va pouvoir dire tu veux tester un prototype, tu utilises mon outil de testing, je te permets de facilement récupérer des données avec les personnes avec qui tu as testé et tu n'as pas besoin d'être présent pour le test, tu peux juste l'envoyer à 1000 utilisateurs et recevoir 1000 réponses et à la fin, moi, je t'agrège les données. Tu as aussi ceux où ils ne t'agrègent pas forcément les données, mais en tout cas, ils te permettent de récupérer un maximum de données qualitatives sans que tu sois présent et donc te faire gagner du temps là-dessus. Et puis après, tu vas avoir les outils de recrutement et ça, c'est des outils qui vont te permettre de toucher la bonne cible, les bonnes personnes. Et nous, typiquement, en Tandems, on est dans ce créneau-là.
France nous parle des ambitions et de la vision qu'elle a pour Tandems. une grande part des outils répondent aux besoins en mettant en avant la vitesse ou la quantité de données récoltées. Ces approches ne sont pas mauvaises, elles répondent à des besoins spécifiques. Cependant, il est possible d'avoir une autre approche, celui d'un recrutement de qualité, tout en restant agnostique sur les méthodes utilisées pour mener la recherche.
Tandems, on est une plateforme de recrutement en self-service de participants à la recherche utilisateur. Donc nous, on est méthode agnostique, on peut recruter pour toutes les méthodes. Par contre, l'objectif, c'est de dire ta recherche utilisateur, pour qu'elle soit de qualité, il faut que tu la fasses avec des personnes qui sont pertinentes par rapport à ton projet, ton produit et ton étude. Et pour ça, il faut être capable de cibler de manière précise les bonnes personnes. Et nous, ce qu'on apporte, c'est ça, c'est un ciblage précis et une mise en contact rapide avec des personnes. On est parti du principe suivant, c'est qu'on est convaincu que pour faire de la bonne recherche utilisateur, il faut le faire avec des personnes qui sont pertinentes par rapport à une étude, à un projet et un produit. Et donc, du coup, d'être capable de pouvoir dire, toi qui a déjà utilisé ce produit ou a déjà rencontré cette problématique récemment, eh ben tu peux venir m'en parler et ça va m'intéresser et je vais apprendre quelque chose. Aujourd'hui, si on regarde les autres outils, on voit principalement, je dis pas que c'est 100% le cas, mais on voit principalement un focus autour de soit de la vitesse, soit du volume de données, soit sur le fait que ce qu'on récupère à la fin, c'est de la donnée. Or, nous, on n'est pas convaincus que c'est la seule... que c'est la seule démarche. En fait, la recherche utilisateur, pour qu'elle soit complète, il faut qu'elle vienne allier quali et quanti, il faut qu'elle vienne allier données récupérées sur le terrain, mais aussi données proposées par l'utilisateur, données par l'utilisateur. Et donc nous, on vient en fait se placer dans un créneau où on est plus dans de la qualité en fait de la donnée, parce que les personnes avec qui on va discuter, avec qui on va faire l'étude, sont des personnes 100% qualifiées pour l'étude. Et derrière, en fait, nous, notre proposition de valeur, c'est de dire, t'es sûr qu'avec nous, tu vas pouvoir obtenir des insights de qualité. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le prérequis à la recherche, c'est de la préparation. En se focusant uniquement sur du volume et de la data, ben, tu vas aussi avoir beaucoup de données parasites qui viennent de personnes qui sont pas forcément intéressantes. Nous, on part du principe de dire que, ben, notamment sur des entretiens qualitatifs, tu peux avoir moins d'insights, mais ils seront de meilleure qualité, ils t'apporteront plus de choses, ils t'apprendront plus que si tu avais interrogé, envoyé un questionnaire à 1000 personnes, mais dans les 1000 personnes, il y en a peut-être 80 qui ne sont pas dans ta cible.
Existe-t-il une dictature de la donnée ? C'est ce que nous explique France. Comment l'usage de certains outils, couplé à une obsession de la donnée quantitative, peut faire oublier que la recherche, c'est avant tout comprendre l'humain et le contexte d'usage ?
Aujourd'hui, donc, en fait, comme je disais, tout est très focus data. Ça veut aussi dire quoi ? Ça veut aussi dire que, ben, dès qu'il se passe un petit truc, on va vouloir le valider avec de la donnée. Et il y a un exemple qui est parfait pour ça, c'est qu'on veut faire de l'A/B testing pour tout. On veut changer un wording, allez, on va l'A/B testing, l'A/B tester et voir si ça change de 0,01% nos taux de conversion ou nos taux de rétention. Sauf que l'A/B testing, c'est hyper bien, c'est une très très bonne méthode, mais il y a des choses déjà qui s'A/B testent pas, et donc on va s'efforcer à les A/B tester parce qu'on veut la donnée qui va avec, mais en fait ça, le résultat qu'on va avoir, c'est 50% contre 50%, donc en fait ça change rien. Ou en fait ça va nous demander beaucoup de temps de préparation, de mise en place de cet A/B testing pour tester une mini chose qui ne mérite pas tout cet effort. Là où on est convaincu, c'est que, comme je disais, il faut que les méthodes de recherche, elles sont toutes complémentaires, et donc il ne faut pas en privilégier une plutôt que l'autre, parce qu'aucune de méthodes ne donne la big picture de tout ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur et tout ce qui se passe sur un produit. C'est impossible. Et donc du coup, on va beaucoup penser à la donnée, mais concrètement, est-ce que quelque chose se passe, si quelque chose se passe mal sur le produit, ça peut aussi venir du fait que quelque chose est mal présenté, quelque chose est mal compris, et ces défauts de compréhension, c'est des choses qui se passent dans la tête d'une personne, et on peut pas venir juste à travers des données essayer de deviner ce qui se passe dans la tête d'une personne. Il faut aller lui demander. Au bout d'un moment, il faut faire l'effort de parler à des gens et de se placer aussi dans un contexte, dans un prisme plus humain, où on se dit, ben, en face de nous, on a des personnes, et ben, elles sont peut-être sur leur téléphone dans le métro, et donc du coup, il y a du bruit, ou il y avait leur, ils sont arrivés à leur station, donc il a fallu qu'ils descendent à leur station, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ont droppé. Quel est le contexte, l'environnement d'utilisation d'un produit? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un utilisateur? Tout ça, le meilleur moyen, ça reste d'aller voir des gens et leur poser la question.
Ces outils doivent être une aide à la recherche. Un moyen, parfois, d'aller plus vite. Ils ne doivent pas avoir vocation à remplacer l'expertise et le travail sur le terrain. Chapitre 3. Se former à la recherche.
Pourquoi se former aujourd'hui ? C'est qu'aujourd'hui, donc, tout va très vite et il y a plein de nouveaux concepts qui émergent, il y a plein de nouvelles technologies. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut se différencier, il faut qu'on puisse suivre un peu les dernières trends ou avoir nos skills qui s'alignent avec tout ça. Donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est important de se former aujourd'hui. Et c'est aussi qu'on peut vite rester dans son train-train de son travail et de garder toujours les mêmes méthodes et de ne pas vraiment se renouveler. Donc je pense que c'est aussi important de savoir où est-ce que nous, on peut s'améliorer aussi en tant que personne.
Ces dernières années ont vu l'essor de nouvelles formations sur les métiers du design et du product management. Ces bootcamps sont des formations courtes et en groupe. Elles ont vocation à former plus vite et s'adressent à un public différent de celui des écoles. Actuellement, il n'existe pas de cursus spécifique qui permet de faire de la recherche en expérience utilisateur. Les voies sont multiples. Psychologie, sociologie, sciences sociales. Pour pallier à ce manque, il ne fait nul doute que de nouvelles formations vont émerger dans les prochaines années. Dans ce chapitre, nous voulons comprendre comment se former de façon efficace et quelles compétences sont nécessaires pour faire de la recherche. Pour mieux comprendre le sujet, nous avons croisé les témoignages de deux participantes à la formation Cousteau avec celui de son fondateur.
Je suis Caroline et je suis Product Manager depuis 2 ans et demi. Moi, j'ai découvert l'UX quand j'étais en 3e année d'école et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, on parle plus d'un point de vue utilisateur parce que ce n'était pas du tout quelque chose qu'on nous apprenait en cours. Ce qui m'intéressait, donc, c'était d'avoir plus le point de vue utilisateur que je trouvais intéressant. Après, de par mon parcours et mes centres d'intérêt qui étaient plus orientés tech et stratégie par mes études, je me suis plus orientée vers le product. Et en stage de fin d'études, je suis allée chez Flixbus, où, avec qui j'ai bossé avec 3 équipes produits. Et à partir de ce moment-là, j'ai pas quitté l'univers produit. Quand on est product manager, souvent on le devient de par une expérience passée. Donc soit on a bossé dans la finance, soit on est dans le conseil, etc. Et on apporte toujours une certaine expertise. Donc moi, j'ai commencé directement dans le produit et par un startup studio, donc j'avais pas vraiment de spécialité. Je me suis dit qu'à un moment donné, je voulais vraiment commencer à avoir un point fort en produit, et donc je regardais un peu les différentes formations qu'on pouvait faire, que ce soit dans plus produit en étant tech ou en growth, etc. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était plus le côté UX et vraiment comprendre l'utilisateur. Quand je suis tombée sur la formation Cousteau, je me suis dit, c'est exactement ce dans quoi je veux me spécialiser et avoir plus cette partie discovery, en fait, à mon arc.
Je m'appelle Vanessa, je suis user researcher chez Live Mentor depuis septembre. Avant ça, j'étais product designer chez Wiser, une startup dans la data. Cousteau, c'est la manière facile dans le sens où on n'a pas à chercher pendant des heures, les bonnes ressources, les bons livres, les bons articles. C'est un espèce de condensé de tout ce qui s'est fait un peu de mieux. C'est aussi un condensé de ce que les mentors qui sont sur le programme, qui sont des personnes très expérimentées, ont essayé, qu'elles ont amélioré, etc. Et en fait, je pense que c'est facile pour les personnes qui manquent un peu de temps et qui veulent avoir la même qualité d'enseignement. Mais pour moi, on peut aussi se former en lisant des newsletters, en lisant des livres, en regardant des tables rondes. C'est juste un investissement qui est différent. J'avais l'impression que j'étais pas, même si j'avais fait beaucoup de recherches déjà, j'avais l'impression que j'étais pas légitime à postuler à des offres de chercheurs et qu'il me fallait un espèce de tampon qui dit oui, cette personne peut faire de la recherche. Je pense que j'avais besoin de conseils sur comment appréhender les retours un peu négatifs ou les freins qu'on peut avoir en entreprise à faire de la recherche. Typiquement, je me suis retrouvée des fois sur des restitutions ou quoi, à restituer les enseignements que j'avais eus pendant une phase de recherche et qu'on me réponde « bah oui, mais en fait, ça, c'est juste 10 personnes que tu as rencontrées sur nos X clients. Et comment est-ce que nous, on se base sur ça ?» Et d'avoir un peu, en fait, ces baisses de confiance envers ce que je faisais de certains stakeholders. Et je sentais bien qu'aujourd'hui, avec mon niveau de compétence, j'étais pas capable de répondre à ce genre de retour. Et c'est ça aussi qui m'a motivée. J'avais envie de pratiquer. Je voyais bien que j'allais pas apprendre une quantité de nouvelles choses très importantes, mais j'avais envie de pratiquer sur d'autres sujets avec des personnes expérimentées et d'avoir un peu les tips qui font qu'on peut faire plus vite et mieux, quoi, en gros.
Pour moi, c'était vraiment d'avoir tout ce qui était structure. Parce qu'en fait, la user research, c'est quelque chose que j'avais appris sur le tas, en fait. C'est quelque chose que je faisais depuis ma première expérience chez Flixbus. Et en startup studio, du coup, pour chaque projet, je faisais de la recherche utilisateur, mais c'est vraiment des choses parce que un tel t'a conseillé de faire cette méthode, un tel t'a conseillé d'être comme ça en interview. Et en fait, j'avais pas du tout tout le cadre de préparation qu'on peut avoir quand on fait son plan de recherche. Moi, ce que je cherchais vraiment, c'était d'avoir des méthodes et d'avoir tout ce qui va être un peu template. Donc ouais, c'est un peu tous les bases, en fait, que moi j'avais jamais apprises et que j'avais toujours apprises sur le tas.
Grégoire, le fondateur de Cousteau, nous explique comment il a conçu la formation grâce, notamment, aux besoins récoltés sur le terrain auprès d'entreprises.
On s'est dit qu'on allait aller creuser un peu plus les besoins dans les entreprises tech européennes. Donc, bon researcher, on a été faire une research et interviewer une vingtaine de head of product, head of design, product manager, researcher, etc. Dans des entreprises comme Lydia, Payfit, Frishti, Doctrine, Zoopla, etc. Pour comprendre un peu où est-ce qu'ils en étaient, quand ils faisaient de la research, quelle place ça prenait, quand ils en faisaient pas, pour quelles raisons, etc. Et donc, on s'est rendu compte que, en gros, il y avait deux choses. Il y avait un, c'est pas toujours facile pour un head of product ou un head of design, en fait, d'arriver à pousser cette discipline-là et à bien l'expliquer à son top management quand c'est pas la culture de l'entreprise. Et la deuxième chose, c'était, en fait, même quand on arrive à le faire comprendre et qu'on en saisit l'importance, on a du mal à trouver, en fait, tout simplement des profils, soit de product managers qui sont ou de designers qui sont très bons sur cette partie-là, soit tout simplement des gens qui sont des researchers. Parce que en fait, c'est pas une discipline qui est, en tout cas, dans la manière dont elle est pratiquée dans un environnement produit, design, technologique, qui est enseigné dans les universités. Alors, dans les écoles de design, en général, on en fait un peu. Il y a des personnes qui viennent plus du monde des études, qualitatives, quantitatives, ce qui est très bien, parce qu'en général, ils sont assez bons sur les méthodos, mais du coup, ils comprennent pas forcément très bien, au départ, en tout cas, l'environnement tech. Donc, voilà, il y a besoin de résoudre un peu tout ça. Donc, nous, on s'est dit, on va essayer de créer une formation qui permet à la fois d'utiliser les connaissances et l'expérience des personnes qui sont déjà formées et qui pratiquent dans ces entreprises et de former du coup des nouvelles personnes à cette discipline pour en gros aller boucher un peu les trous qui existent déjà et continuer à faire grandir la discipline.
La formation s'adresse à des profils variés mais débutants. Dans ce public, l'on retrouve les métiers du produit, product management et design. Ces personnes viennent se former pour acquérir des compétences, mais également un sentiment de légitimité. Caroline et Vanessa s'accordent sur le fait qu'une des compétences clés à acquérir est la compréhension de ses propres biais.
Tout d'abord, il faut que les product managers comprennent que la user research, c'est tout le long, c'est en continu, et c'est pas juste quand on a un problème. Parce que souvent, on a tendance à faire de la user research quand on se rend compte que personne clique sur notre feature. Je pense que souvent, les product managers pensent qu'ils peuvent tout faire. Ce à quoi j'ai fait face, c'est que beaucoup posent des questions, mais le typique de « est-ce que tu achèterais ce produit ?» en fait. Et ça, en fait, on l'entend beaucoup plus qu'on ne le pense. Après, ça, c'est le cliché, mais il y en a beaucoup du même style. En fait, combien est-ce que tu paierais pour ça ? Qui sont en fait des questions toutes basiques et en fait, on va pas réfléchir dessus, mais en fait, ça nous aide pas vraiment. Et en fait, ça va être beaucoup axé aussi sur les vanity metrics. Les product managers, et moi la première, en fait, souvent, on sait à peu près quel est notre roadmap, etc. Donc, inconsciemment, on veut toujours confirmer ce qu'on veut. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important d'avoir des user researchers, parce qu'en fait, ils ont ce côté neutre, en fait, qui va être apporté, et eux, ils arrivent sans leur biais. Moi, même si j'adore faire de la user research et que je trouve ça super intéressant, je fais toujours relire mes scripts ou mon plan de recherche par quelqu'un qui est complètement neutre à mon projet. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'avais l'habitude de faire avec une UX designer dans mon ancienne boîte, de vraiment se dire, OK, là, je veux poser cette question, qu'est-ce que t'en penses? Et en fait, je pense que c'est l'importance de se faire challenger quand on n'a pas de user researcher.
Comment est-ce qu'on forme les gens qui s'occupent de la recherche dans les entreprises où il n'y a pas de chercheurs pour limiter les biais? Donc moi, j'ai l'impression que c'est cette partie-là qui manque, parce qu'il y a un intérêt, hein, si on prend les PM, par exemple, ou les product designers, ils ont un intérêt pour la recherche qui est là, qui est évident. Et parfois, ils mènent cet intérêt jusqu'à la réalisation, et pour autant, on peut pas être certain de la qualité de leurs compétences. Pour moi, il y a ce vrai truc qui est probablement un manque de maturité du marché à ce jour, qui est, sur tous les métiers de designer, on a l'impression globalement que c'est facile, que faire une discussion avec quelqu'un, c'est facile, et que ça demande pas forcément de compétences précises. Et le problème de tout ça, c'est que derrière, du coup, on crée des entretiens avec des biais, on crée des tests utilisateurs avec des biais, et on construit des choses dessus, potentiellement ça marche pas, donc on peut se dire, bon, bah, en fait, la user research, oui, c'était sympa, j'ai rencontré des utilisateurs, mais au final, on s'est planté quand même. Et donc, pour moi, il y a plus ce point de... tout le monde n'a pas les moyens, toutes les entreprises n'ont pas les moyens d'avoir des user researchers chez elles en interne, et ça, c'est compréhensible, et du coup, c'est comment est-ce qu'on fait pour garantir que les personnes qui vont la faire, quelles qu'elles soient, elles soient compétentes et elles aient au moins conscience des biais qui existent dans la recherche.
Moi, j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était biais cognitif. J'essaye toujours d'être un peu éveillée au sujet. Et en fait, c'était vraiment parfois... En fait, c'est aussi apprendre à ce que je disais plutôt de l'écoute, c'est vraiment apprendre à se taire. Et en fait, de poser une question ouverte et se forcer à rien dire. Et en fait, c'est tout simple, mais en fait, on apprend à en dire moins. Et en fait, ça, c'est aussi très fort. Je pense que c'est une des choses les plus fortes qu'on puisse apprendre aussi en user research. Parce que si on est capable de laisser l'espace à l'utilisateur, c'est déjà très bien, et d'être en capacité de retranscrire tout ça. Et moi, ce qui m'a aidé aussi beaucoup, c'était dans l'analyse des résultats. Parce que souvent, en fait, on fait toutes ces interviews et c'est trop bien. Mais en fait, il faut surtout pas rester biaisé, en fait, quand on fait l'analyse des résultats. Ah, il y a un tel qui a dit ça, donc ça me confirme, ou justement, ça va dans mon sens. Et en fait, c'est de rester non biaisé jusqu'au bout, qui est aussi très important et qu'on a appris.
Grégoire nous parle des contraintes derrière la conception de la formation et comment l'active learning, une méthode éducative qui facilite l'apprentissage, est utilisée durant les 6 semaines de formation.
La question qu'on s'est posée, c'est finalement, c'est quoi un peu la meilleure manière d'apprendre aujourd'hui dans un monde qui est de plus en plus technologique, dans lequel on a de moins en moins de temps, dans lequel on a tendance à passer peu de temps sur beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup plus de choses qu'avant, mais par petits bouts, quoi. On passe beaucoup moins de temps, 2 heures derrière un livre, ou 2 heures à écouter quelqu'un. On écoute des vidéos de 3 minutes tout en écrivant quelque chose sur WhatsApp, etc. Donc voilà, on a besoin de réfléchir un peu à ça. On avait aussi un certain nombre de contraintes dans le fait de vouloir être une formation qui est 100% accessible à distance, parce que c'est une formation qui est vouée à être disponible partout en Europe, pas liée à un lieu physique, et qui s'adresse à des personnes qui sont déjà en poste ou qui font d'autres projets parce qu'elles sont freelance, etc. Donc voilà, on n'a pas toute la journée pour leur apprendre ce qu'on a à leur apprendre. Du coup, on a travaillé en fait avec une boîte qui s'appelle LearnSpace, qui en gros propose du conseil en formation. Alors ça peut être aux écoles, aux universités, et réfléchit beaucoup aux nouvelles méthodes de formation sur ce qu'on appelle l'active learning. En fait, le point de départ, en tout cas pour moi, de tout ça, c'est une étude qui a été faite à Harvard. Donc c'est une étude quanti, je crois qu'il y a après 100 étudiants dans chaque échantillon. Et en fait, il y a une partie des étudiants qui vont faire de l'active learning. Donc en gros, ça veut dire qu'on leur donne des exercices, ils doivent faire les exercices, et ensuite pour faire les exercices, on leur propose d'accéder à la théorie. Donc ils vont en fait se poser un problème auquel ils savent pas répondre à la base, parce que simplement ils ont pas appris la méthode pour y répondre, mais du coup ils vont apprendre la méthode pour répondre au problème. Et l'autre, qui est le côté, on va dire, ce qu'on a tous fait à l'école jusqu'à maintenant, c'est on nous apprend la théorie dans un amphi pendant 2 heures, et à la fin on nous donne un exercice dans lequel on est censé appliquer cette théorie. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce qu'on fait l'active learning, ils ont eu des meilleurs résultats à l'exercice, mais quand on leur a demandé ce qu'elle était, enfin, en gros, ils avaient le sentiment d'avoir moins bien appris que les autres, alors que les autres avaient des moins bons résultats, mais avaient le sentiment d'avoir mieux appris. On a un peu cet héritage de apprendre, c'est quelqu'un qui va nous expliquer quelque chose pendant 2 heures et nous, on va prendre des notes, etc. Ça met un peu en insécurité le fait d'avoir un exercice auquel on ne sait pas répondre. Mais en fait, ça active tout de suite notre cerveau et du coup, on va apprendre beaucoup plus vite. Donc nous, c'est ce qu'on a essayé de faire dans Cousteau. Donc chaque semaine, en fait, démarre par ce qu'on appelle un challenge, qui est un exercice, une petite problématique voilà, qu'on va poser sur comment on définit une approche de recherche, comment on va écrire un guide pour des user interviews, un protocole pour un test, etc. Et en fait, quand on pose ce challenge-là aux participants, il ne sait pas comment faire. C'est, enfin, on lui a pas donné les clés, donc peut-être qu'il sait de manière empirique par rapport à ce qu'il a fait avant, qu'il a des idées, etc. Mais du coup, en fait, pour répondre à cette problématique-là, ensuite, il va pouvoir poser des questions à son mentor, il va avoir accès à un certain nombre de contenus théoriques via des cours de vidéo, des templates, etc. Et en fait, ce qui fait que finalement, le temps qu'il passe à apprendre de la théorie, c'est pour répondre à un problème qui est très pratique. On apprend beaucoup plus rapidement de cette manière-là. Donc pour nous, ça répond à la fois à comment est-ce qu'on apprend en gros en 2021 et comment est-ce qu'on fait nous pour une formation qui va durer après 4 à 6 heures par semaine, arriver à satisfaire nos participants en termes d'apprentissage et s'assurer qu'à la fin, ils partent pas juste avec des bouts de théorie, mais ils partent avec des réflexes pratiques de « Ok, j'ai telle problématique, voilà comment je vais dérouler, je l'ai déjà fait, j'ai confiance dans la manière dont j'ai fait. » Ça change beaucoup de choses.
Une des contraintes fortes est que la formation s'adresse en priorité à des personnes déjà en poste. Le rythme doit être adapté et le programme doit répondre aux disponibilités des participants et participantes.
La formation Cousteau dure 6 semaines. C'est 4 à 6 heures par semaine avec 2 heures de live, 1 heure de mentoring et 1 heure de masterclass, plus 2 à 4 heures de visionnage de contenu théorique, plus résolution d'un challenge. Chaque semaine dans Cousteau va suivre le même rythme. On commence le vendredi. L'idée, c'est de commencer avec justement de l'active learning, donc par de la pratique. On va présenter un challenge. Ensuite, ce challenge va amener les participants à aller consulter les différents contenus théoriques via des vidéos et des templates qui sont accessibles. Ils vont rendre leur challenge le mercredi soir. Ça va permettre à leur mentor de relire leur travail, ensuite de leur faire des feedbacks. Ils vont avoir 1 heure de mentoring le jeudi soir où ils vont pouvoir justement poser des questions, échanger sur leur exercice pour apprendre à la fois de ce que eux ont fait, mais aussi d'autres participants qui sont mentorés par le même user researcher, ce qu'on apprend aussi en général beaucoup de la manière dont les autres ont réfléchi. Et à la fin de cette heure de mentoring, on va avoir 1 heure de masterclass. Qu'est-ce que c'est la masterclass? C'est à chaque fois un user researcher, en général assez senior, qui va venir lui présenter comment est-ce que fait cette partie-là, cet exercice-là, ce challenge-là dans son métier. Donc, par exemple, si c'est une masterclass sur l'exécution des user interviews, pendant 1 heure, on a un user researcher qui va, via des exemples, expliquer comment est-ce qu'il fait dans son métier, quelles sont les erreurs à pas commettre, souvent quelles sont les erreurs que lui a commises parce que c'est ce qui lui a permis d'apprendre, qui permet d'avoir ces tips. Ce qui est intéressant, je trouve, sur les 6 semaines, c'est que à chaque fois, c'est très concentré sur un sujet, donc ça permet de vraiment creuser avec quelqu'un qui a une expertise solide le sujet pendant 1 heure. Et ça permet aussi, sur 6 semaines, d'avoir des visions différentes. Chacun a vécu des expériences qui sont assez différentes, a eu des problématiques différentes, et ça crée du coup une formation à la fin qui est quand même beaucoup plus riche que si on répétait la même chose avec la même personne tout le temps.
Pour Vanessa, le rythme de la formation pendant 6 semaines est assez éprouvant. Caroline évoque un problème de coût pour ce type de formation, mais un format adapté à ses besoins.
Il faut être prêt à sacrifier une partie de sa vie privée pendant 6 semaines, parce que c'est assez éprouvant, sachant que sur le poste chez Wiser. Du coup, j'étais seule designer, donc c'était déjà assez éprouvant en soi, il y avait beaucoup de travail. Et à côté, du coup, j'essayais de faire en sorte que Cousteau déborde le moins possible sur les temps de travail Wiser. En termes d'organisation, nous, on travaillait du coup en groupe de trois, avec Caroline et Louise. Et en fait, on se voyait le vendredi, au moment où on nous donnait le brief. Et derrière, sur le week-end, on faisait l'active learning, on réfléchissait aux exercices. On se voyait à nouveau toutes les trois le lundi pour revoir ce qu'on voulait rendre à notre mentor. Donc en fait, il y a quand même une charge de travail pendant 6 semaines qui est très conséquente et qui avait été un petit peu sous-estimée. Il faut être quand même assez organisé. Je pense qu'il faut être très motivé pour suivre ce genre de formation en ayant un plein temps à côté, vraiment. Mais ça reste faisable. J'y passais pas non plus toutes mes nuits. Ça reste réalisable, mais il faut quand même voilà être prêt pendant 6 semaines à dégager, je dirais, entre 5 et 10 heures pour pouvoir faire les active learning, les rendus, les coaching mentors, les masterclass, etc.
Moi, ma limite, ça a toujours été le coût, parce que j'étais aussi basée à l'étranger. J'étais en Suisse, et donc j'étais pas du tout apte aux aides. Et beaucoup de formations étaient autour de 6 000 euros, ou comme j'ai mentionné, c'était plus 2 mois en présentiel, etc. Donc, pour moi, c'était pas une option de quitter mon job pour faire une formation. Pour moi, c'était vraiment de trouver le bon format de formation et un prix que je puisse, moi, soit me faire sponsoriser par ma boîte ou sans aide, en fait. Donc, je pense que ça, c'était vraiment mes difficultés avant et pendant. Forcément, ça va être de jongler entre la formation et le travail. Mais ça s'est étonnamment très bien fait. C'est vraiment la première semaine qui est un peu sportive. Et en fait, après, on trouve son équilibre.
Pour conclure ce chapitre, nous avons demandé à Vanessa et Caroline de nous parler des compétences manquantes dans leur métier. Les compétences qu'elles souhaitent apprendre dans les prochaines années.
Pour moi, ce qui me manque un peu dans toutes ces formations et globalement, même dans les ressources qu'on peut trouver sur Internet, les ouvrages, les webinaires, etc., c'est de donner plus de billes aux juniors sur comment est-ce qu'on travaille avec la donnée quanti. Pour l'instant, à ce jour, je crois que j'ai vu un seul article passer qui parlait de ça et qui était plus de motiver les gens à s'intéresser à la donnée quanti, mais qui donnait pas de tips sur très concrètement comment est-ce qu'on fait pour gérer des tonnes de données sous lesquelles on peut se retrouver quand on travaille sur une plateforme. Beaucoup, beaucoup de données de navigation peuvent être super riches si on arrive à savoir un peu quoi en faire, qui est vraiment un frein un peu au quotidien aujourd'hui à ma pratique et sur laquelle je pense me former très prochainement, dans les mois à venir. Il y a aussi du coup la partie sur comment est-ce que je pourrais gagner en rapidité et industrialiser un petit peu plus tout ce qui est les analyses qualitatives, parce qu'aujourd'hui c'est du temps que j'ai du mal à optimiser, d'analyser des interviews par exemple ou quoi. Et je pense qu'il y a aussi un point de progression qui là est plus de l'ordre de potentiellement discuter avec d'autres chercheurs pour savoir un petit peu comment est-ce qu'ils font pour maintenir l'intérêt envers leur discipline des autres équipes. On vient d'arriver, donc pour l'instant il y a cette euphorie un peu, cet intérêt des autres équipes sur ce qu'on fait, et je me demande un peu comment sur le long terme est-ce qu'on les garde impliqués, est-ce qu'on maintient un peu l'intérêt qu'ils peuvent avoir sur notre discipline, quoi.
Aujourd'hui, donc, il y a plein de formations. Il y a beaucoup de formations, en fait, je trouve qu'ils font beaucoup de promesses en sortant. Vous êtes user researcher ou vous allez être PM. Mais je pense qu'il manque aussi un peu les formations de différents niveaux. En fait, je pense que ce serait intéressant. Donc là, j'ai passé cette première formation où j'ai les bases en user research, mais ce serait intéressant d'avoir un peu le côté débutant, intermédiaire et senior. Je pense que ce serait intéressant de voir des formations où on peut vraiment plus... Oui, aller plus loin dans ses compétences. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui couvrent plein de sujets de base et c'est super intéressant, mais j'ai pas vu trop de formations qui font un peu le next level. Ou même, en fait, c'est j'ai déjà des compétences là-dessus et en fait, j'aimerais plus me challenger et apprendre ce qu'il y a au-dessus. Parce que les bases, je les ai à peu près. Par exemple, aujourd'hui, je vois pas l'intérêt de refaire une formation en user research parce que, en fait, je pourrais, mais je chercherais. Donc là, j'aurais beaucoup plus d'attentes et d'apprendre des choses que je ne connais pas. Parce que là, même s'il y a des sujets que je connaissais parce que ça faisait 2 ans et demi que je faisais de la user research dans mon travail de PM, c'était des choses que j'avais apprises sur le tas. Donc, moi, je me prouvais pas légitime de pouvoir t'expliquer, c'est comme ça que ça fonctionne. parce que je l'avais fait, je l'avais testé, et qu'est-ce que j'en sais si c'est vraiment la bonne méthode. Mais après, je pense qu'en user research, ça revient toujours à... Tu testes et tu vois.
Chapitre 4. Perspective vers le Head of Curiosity. Dans ce dernier chapitre, nous allons échanger avec nos invités sur l'avenir du métier. Le métier et les pratiques manquent encore de maturité. Les évolutions possibles sont nombreuses, entre la place du métier dans les entreprises et de nouvelles méthodes à mettre en place.
Objectivement, je pense que la maturité des pratiques, elle est relativement faible, parce que c'est quelque chose qui est très nouveau, qui est un peu en balbutiement. On est passé de... on fait du design et on verra ce qui se passe avec les utilisateurs, à il faut parler à des utilisateurs pour faire du meilleur design, à il faut avoir des méthodes solides pour comprendre comment les utilisateurs se comportent, dans quel contexte, pour faire du meilleur design. Il y a encore beaucoup de choses qui sont faites avec des bouts de ficelle, il y a encore beaucoup de choses qui sont faites qui en fait ont été faites, je pense, pour des mauvaises raisons. Alors, je ne vais pas trop m'étendre sur la qualité méthodologique du NPS, par exemple, mais je ne suis pas sûr que dans 5 ou 10 ans, on l'utilisera encore. Et je souhaite qu'on ne l'utilise plus parce que objectivement, c'est un outil qui est dangereux d'un point de vue méthodologique. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on en est, je pense, encore au début, en fait, de la qualité... des méthodologies qu'on utilise. Aujourd'hui, les technologies nous permettent de faire quand même beaucoup plus de choses par rapport à, évidemment, ce qu'on pouvait faire avant. Si on pense à de l'ethnographie, par exemple, donc aller vraiment in situ, comprendre comment un utilisateur se comporte dans son environnement, etc. Bah ça, avant, si on n'allait pas vraiment in situ, c'était quand même compliqué de le faire. Alors, avec le Covid, il y a plein de gens qui ont aussi appris à mieux utiliser les outils vidéo, etc. Mais en fait, aujourd'hui, avec la technologie qu'on a, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup plus de vidéos, demander aux gens d'envoyer des photos, d'enregistrer des choses, etc. Donc, en fait, il y a un lien entre le researcher et l'utilisateur qui est beaucoup plus simple à avoir, parce qu'en fait on communique de manière beaucoup plus simple. Donc il y a plein de nouvelles méthodes finalement qu'on peut imaginer et qu'on peut mettre en place qui sont un peu plus agiles, un peu plus sur un temps long, etc., que uniquement de parler à quelqu'un pendant une heure ou de lui faire remplir un questionnaire, etc. De temps en temps, on va avoir envie de tester plein de nouvelles choses qui sont d'une qualité méthodologique un peu discutable, on va dire, mais en même temps, c'est aussi, faut aussi les essayer, il faut aussi les essayer pour comprendre quelles en sont les limites. Donc ça, c'est aussi assez excitant de se dire que y a plein de nouvelles méthodes qu'on peut mettre en place pour mieux apprendre des utilisateurs et de leur contexte. Et ça va faire que continuer. On va voir, je pense, plein de boîtes se développer sur ce segment-là dans les prochaines années.
Pour France, 3 évolutions sont possibles. Un rapprochement des métiers de la recherche et de l'analyse des données, un rôle plus stratégique et plus macro pour les chercheurs et chercheuses, et la démocratisation d'une approche pour passer les organisations à l'échelle.
Aujourd'hui, souvent, l'UX Research et la partie data analysis est souvent encore assez séparée dans les entreprises. Donc, la première évolution que je vois, la tendance que je vois déjà, c'est que de plus en plus, la data et l'UX Research vont travailler ensemble, collaborer. Et du coup, je pense que ça va mener vers peut-être même voir un merge de ces entités, ou en tout cas de personnes qui sont à la fois UX Researcher, on va dire, d'un point de vue un peu plus traditionnel, mais aussi data analyst, ou vice-versa. Il y a une autre tendance que je vois, c'est que quand je parle à des UX Researchers, beaucoup ils me disent « bah moi, j'ai 2 casquettes, j'ai la casquette, je fais la recherche 7 heures parce qu'on me demande, on me dit « c'est ça le produit qu'on est en train de faire maintenant ». Va faire la recherche, donne-nous les résultats. Mais l'autre casquette qu'ils ont, c'est une casquette plus de formation en interne au sein de leur entité, entreprise, de dire, il y a toute l'équipe de conception, l'équipe produit qui est là, et moi, je suis l'évangélisateur, je vais venir évangéliser sur les bonnes pratiques, sur le bon mindset, et je vais faire en sorte que les designers soient maîtres de leur propre recherche sur des éléments ponctuels de design, que les PM soient leur mettre de leur propre recherche sur l'évolution de leurs produits pour que moi, en tant que UX researcher, je puisse me concentrer sur des questions de recherche plus beaucoup plus macro sur de la stratégie de l'entreprise, sur de la positionnement par rapport à la concurrence, sur les opportunités de marché. Là, j'entends beaucoup de UX researchers m'en parler. Et je pense que ça va être si c'est vraiment ce qui le pousse, c'est une tendance que je vais voir. Et d'ailleurs, j'ai vu des entreprises commencer cette démarche de déléguer la partie purement, on va dire, testing de fonctionnalités à l'échelle micro aux équipes produits pour elles se concentrer sur des éléments de recherche plus macro. Un autre point aussi d'évolution, ça va être la séparation entre l'opérationnel et le reste, donc c'est-à-dire la création de postes de research ops. D'ailleurs, il y en a de plus en plus qui existent, mais c'est pareil, c'est plus nouveau. En gros, c'est dire ok, il va y avoir une entité transverse qui va gérer toute la logistique de la recherche à l'échelle de l'entreprise pour dire les méthodes standardisées, ce sont celles-là. Les outils standardisés, ce sont ceux-là. Si vous avez besoin d'aide pour organiser quelque chose, eh ben, on est là pour vous aider. Comme ça, la recherche, la personne qui fait la recherche, elle peut s'attarder plutôt sur des éléments de, c'est quoi les hypothèses, c'est quoi les objectifs, et derrière, sur l'analyse aussi des données, sans devoir s'embêter avec certains aspects de logistique qui apportent moins de valeur.
Grégoire partage également son constat final sur trois évolutions possibles du métier. Il évoque l'idée d'avoir un « Head of Curiosity » pour aider les entreprises à évoluer dans de nouvelles directions.
Quelque chose, moi, qui m'a marqué, c'est le fait qu'il y ait maintenant des « Head of Product » ou « Head of Design » dans des entreprises tech qui sont des researchers à la base et pas des product managers ou des designers. Or, c'est en général des researchers qui maîtrisent aussi relativement bien les méthodos produits et comprennent bien le design. Mais c'est de se dire, finalement, la meilleure personne pour piloter demain un produit, c'est peut-être celle qui a le plus la capacité à comprendre qui sont les utilisateurs, leur contexte, et à le résoudre avec la vision de l'entreprise qui est drivée par le top management, pour justement être capable d'orienter le bateau dans la bonne direction, plutôt que celui qui connaît tous les rouages du bateau, qui sait exactement comment est-ce qu'on va aller changer tel boulon à tel endroit. Donc ça, je pense que c'est intéressant, c'est d'aller vers des postes en research qui amènent à faire plus de stratégie finalement demain, parce que ça amène une réflexion stratégique naturellement, cette partie research. Donc ça, c'est une évolution qui me semble vraiment intéressante. La deuxième évolution, c'est d'avoir des équipes research qui sont à disposition de beaucoup plus d'équipes internes. C'est de se dire, finalement, le besoin, il est de comprendre le contexte et l'utilisateur, pas uniquement pour l'équipe produit et design, mais aussi pour les équipes sales, aussi pour les équipes customer success, etc. Enfin voilà, de se dire, il y a cette équipe qui est un peu transverse, qui est en fait une équipe d'apprenants, en gros, qui à la fois va se nourrir de toutes les autres disciplines. Donc, se dire, quand mes sales parlent à un prospect, ils apprennent un certain nombre de choses, et moi, je vais être capable de les récupérer. Quand les équipes qui font face aux clients parlent à un client, elles apprennent un certain nombre de choses et je vais être capable de les récupérer. Et en fait, les équipes recherche, elles sont responsables d'un système d'apprentissage à l'intérieur de l'entreprise qu'on va créer, qu'on va nourrir de toutes les disciplines et qui va servir toutes les disciplines aussi derrière. Et elles, leur métier finalement, c'est de récolter toutes ces informations, de les trier, de les remettre dans leur contexte, de les analyser et de les restituer à toutes ces équipes pour qu'elles prennent des meilleures décisions et qu'elles fassent mieux leur métier. Et en fait, on est dans un monde aussi où tout évolue tellement tellement vite et on a besoin, quand on est une entreprise, de se réorganiser très rapidement, d'être le plus agile possible. En fait, si on veut être plus agile, il faut aussi qu'on soit plus sachant, donc qu'on ait une meilleure compréhension du marché, des utilisateurs, etc., tout simplement pour savoir où on va. Et donc ça me semble hyper hyper intéressant comme évolution du métier. Et la troisième évolution qui me vient en tête, c'est je sais plus exactement quel researcher américain qui disait bientôt on aura des head of curiosity dans les entreprises. C'est cette capacité en fait qu'a une entreprise à aller chercher plus loin que ce qu'elle est. Pour justement évoluer et choisir des nouvelles directions. Et ça, c'est souvent amené par la research, parce que la research, c'est une manière de s'intéresser pas uniquement à son propre business, mais finalement un peu à ce qui l'entoure et au monde extérieur, et du coup à trouver des nouveaux relais de croissance, des nouvelles manières de développer des services, etc., etc. Et en fait, encore une fois, comme on est dans un monde où les choses changent très vite et où les entreprises non seulement doivent se réorganiser, mais doivent potentiellement pivoter assez rapidement. Et on sait qu'il y a à la fois plein de nouveaux projets qui sont lancés qui fonctionnent pas, et plein de nouveaux projets qui sont pas lancés et qui restent dans les cartons pendant des années. Je pense que si on veut finalement innover de la meilleure manière possible, il faut aussi avoir cette base de connaissances en dehors de son environnement d'entreprise classique pour aller chercher des nouvelles choses et innover au bon endroit. Donc voilà, il y a à la fois ce côté, je comprends mieux ce qui se passe avec mes utilisateurs sur mon marché grâce à ma machine d'apprentissage, mais aussi le Curiosity Team qui va s'intéresser à des nouveaux marchés, à des nouveaux pays, etc. et qui va être capable finalement de créer un terreau favorable à l'innovation.
Color.